Karine Joriot.
La RTS a détaillé aujourd'hui son plan d'économie pour 2025. Au total, 46 postes équivalents plein temps seront supprimés contre les 55 initialement envisagés. Le nombre de personnes licenciées se monte à 19. La RTS l'avait annoncé le 12 septembre dernier. Elle doit économiser 10 millions de francs en raison de la réduction de l'indexation de la redevance à l'inflation et de la baisse continue des recettes commerciales. Pour réaliser ces économies, la RTS précise qu'elle va optimiser ses modes de production et réduire un certain nombre de prestations internes. L'impact sur le programme restera limité, mais certaines émissions seront supprimées. Il s'agit d'Helvetica, Sport Dernière, Vivant, Nouveau ou encore le journal radio de 22h30. Malgré le déploiement de la 5G, la santé de la population est assurée. C'est ce que relève l'Office fédéral de l'environnement dans un rapport aujourd'hui. Il s'agit du troisième rapport de monitoring du RNI, le rayonnement non ionisant. Avec l'utilisation de la 5G, l'exposition de la population au RNI a quelque peu augmenté depuis 2021 dans les lieux où les appareils mobiles sont très utilisés. Mais elle reste cependant globalement faible, indique l'OFEV. Les endroits où la population est la plus exposée sont les aéroports, les gares et les arrêts de tram. La population active occupée a fortement augmenté en Suisse. Entre 1970 et 2023, elle est passée de 2,8 à 4,8 millions de personnes. C'est ce que révèlent les chiffres aujourd'hui de l'Office fédéral de la statistique. Cette hausse touche particulièrement les femmes et la population étrangère. En 53 ans, la population active occupée féminine a plus que doublé. La hausse est encore plus frappante auprès de la population étrangère puisqu'elle a presque triplé. À Genève, la place financière progresse au premier semestre 2024. Les acteurs financiers et bancaires ont dévoilé aujourd'hui des résultats en hausse. Si les banques de plus de 200 emplois ont enregistré un recul jusqu'à 15% de leurs bénéfices nets, les autres ont enregistré une hausse comprise entre 3 et 7%. Sur le front de l'emploi également, la tendance est favorable. En 10 ans, plus de 570 emplois ont pu être créés. Le ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, se rend en Chine cette semaine, annonce Pékin. Une visite qui sera l'occasion de confirmer le réchauffement des liens diplomatiques après des années de tensions liées notamment à la répression par Pékin du mouvement pro-démocratie à Hong Kong, envers laquelle Londres estime avoir une responsabilité. Uber a lancé une nouvelle fonctionnalité sur son application de véhicule avec chauffeur, permettant aux voyageurs de 13 à 17 ans d'effectuer des trajets sans être accompagnés. Une phase pilote démarre dans les prochains jours à Genève et à Lausanne. Le service est déjà en application en Amérique du Nord ainsi qu'au Portugal. Les parents qui le souhaitent peuvent créer un compte famille sur l'application Uber qui permettra à leur adolescent de réserver des trajets directement via leur smartphone et de les effectuer seuls. Du côté du ciel, enfin, il devrait se dégager cet après-midi, laissant place à de belles éclaircies en plaine. Côté température, maximum 17 degrés cet après-midi jusqu'à 23 en Valais sous l'effet du fön. Retour des précipitations dès ce soir. Demain, très nuageux avec des précipitations. Elles seront fréquentes en première partie de journée. Puis, développement d'éclaircies. Elles seront plus généreuses en Valais.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
Avec la RTS, ouvrons les yeux sur le monde. À Bornéo, la forêt tropicale est plus que jamais menacée. Deux jeunes enfants et un bébé orang-outan vont braver tous les obstacles pour lutter ensemble contre cette destruction programmée.
Vous n'avez pas le droit de rentrer sans notre accord.
Cette forêt appartient au gouvernement. Officiellement, personne n'habite ici.
Sauvage, le nouveau film d'animation de Claude Barras à découvrir actuellement en salle.
Le progrès est en marche!
Retrouvez l'actualité culturelle dans Vertigo du lundi au vendredi à 17h sur RTS La Première et sur l'application Play RTS.
Vagar. Mettre devant que c'est les croyances qui font gagner, on aurait été les champions du monde depuis des années. On n'a jamais été dans aucune discipline. Et pour moi, jusqu'à aujourd'hui, rien ne m'a encore démontré l'importance des croyances dans l'acquisition des résultats, mais non plus dans les échecs.
Vacarme. Vacarme.
Sport, l'art de la défaite.
Raphaël Bouchet et Laurence Di Félix.
Les superstitions ou la foi sont souvent appelées en renfort sur les terrains de sport ou les stades. Pensez aux signes de croix sur la ligne de départ des sprinteuses, aux index levés quand un but est marqué au foot. Pensez à l'impressionnant haka des rugbymans néo-zélandais. Et du côté des rituels ou des superstitions, pensez à l'alignement millimétré des bouteilles de Raphaël Nadal. Autre continent, autre croyance. Au Bénin, le recours à l'art divinatoire s'avère une pratique courante. Dans ce pays qui est le berceau du vaudou, on consulte les prêtresses ou les prêtres du Fa pour connaître l'issue d'un match, mais aussi pour modifier le cours des choses et favoriser la victoire ou affaiblir les adversaires. Et comme la plupart des clubs ou des athlètes ont recours au vaudou, les compétitions se passent autant sur le terrain que du côté de l'invisible. Dans le cadre de l'opération Enquête d'ailleurs, qui crée des binômes de journalistes avec des pays lointains, nous avons pu ouvrir les portes de cette tradition complexe et très vivante.
Bonjour Fofo.
Bonjour.
Vous allez bien? D'accord, vous connaissez le cabinet de Kofi Azza? Cabinet. Kofi Azza.
Cabinet de Kofi Azza.
Fofo, ça veut dire quoi?
Fofo, c'est pour dire grand frère.
Par respect, quoi.
Vous tournez comme ça. Vous allez longer les pylônes là. Vous longez ça. Vous allez un peu devant, là-bas.
Ok, d'accord. Merci beaucoup.
Prière, offrande et rituels. Reportage Raphaël Bouchet et Mirabel Apaki. Réalisation Mathieu Ramzaouer.
Et donc, qui est Kofi Azza, Mirabel?
Kofi Azza, c'est un prêtre Fa d'une grande renommée au Bénin. Quand on parle de Fa, c'est une pratique traditionnelle qui permet de faire quelques calculs. Et on peut te prédire l'avenir, on peut te dire si l'avenir sera meilleur, te dire ce qui t'arrivera dans 5 ans, dans 10 ans, pour ceux qui croient vraiment. Et beaucoup y croient et ça marche pour eux très souvent. Et dans le monde des sports, on consulte beaucoup avant d'aller pour les compétitions.
Je crois que c'est là.
Je vois déjà des gens en pagne, torse nu. C'est un peu le style vestimentaire.
Torse nu?
Ouais, il vient juste de rentrer torse nu avec un pagne.
Ok.
Donc on y est.
Je vois le monsieur effectivement torse nu avec un pagne vert, ouais. Vert
c'est
et jaune.
C'est comme ça que ceux qui pratiquent le vaudou s'habillent très souvent. Ouais. Et quand ce sont des cérémonies officielles, ils sont beaucoup plus en blanc. Les drapeaux déjà qui nous accueillent,
c'est drapeau blanc là.
Voilà, c'est drapeau blanc. C'est le blanc qui les caractérise beaucoup plus.
Ah oh, mon Dieu, il y a une chèvre attachée par les pattes.
Qui doit être sacrifiée sans doute.
On fait des sacrifices d'animaux?
Oui, oui. On fait des sacrifices d'animaux. Ça dépend de ce que le Fa demande. Il peut demander des poulets, une chèvre, un bœuf, un mouton. Ça dépend de la nature du problème qu'il y a à régler et ce que le Fa a vu et désire qu'on lui apporte. Donc cette chèvre peut être venue pour un sacrifice.
On entre dans une petite cour. Qu'est-ce que c'est ça, par terre?
Non, c'est un truc de sacrifice réalisé.
Ok. Mm. Trois petits tas jaunes.
Je ne sais pas quelle expression vraiment utiliser, mais je peux dire des trucs, je ne sais pas, des trucs de sacrifice. Du sable, puis on a vu de l'huile rouge là-dessus. Donc c'est un peu caractéristique des... On vient? D'accord, d'objets de sacrifice.
Bonjour professeur, comment allez-vous?
Ça va très bien.
D'accord, ça va.
Bonjour.
Merci beaucoup.
Est-ce que les sportifs viennent vous voir ici?
Oui, vous savez, c'est vrai que nous sommes un tombeau de secrets, donc en principe on ne devait pas révéler ça, mais on reçoit tout le monde et beaucoup viennent pour se rendre compte de grands enjeux, mais surtout beaucoup plus ceux de la diaspora, ceux de l'étranger font beaucoup plus recours ici à la source en envoyant leur nom et prénom et pour les grands enjeux qui engagent leur carrière et tout ça, et on prend des dispositions sur le plan occulte ici.
Oui. Est-ce que vous pourriez, évidemment sans révéler aucun nom, me dire comment vous procédez, ou est-ce que c'est secret aussi ?
Non, la procédure n'est pas du tout secrète. Vous savez, quand il y a certains qui le font hein, de façon globale, c'est-à-dire que je suis dans une équipe, l'équipe va pour telle compétition, comment faire pour qu'on puisse avoir un bon score, être parmi les meilleurs ou être le premier s'il le faut ou le champion s'il le faut. Mais il faut pas oublier aussi que quelqu'un vous contacte pour que son équipe gagne. De l'autre côté aussi, ils vont contacter quelqu'un d'autre pour que son équipe gagne. Donc, au fait, il n'y a pas seulement que la vitalité physique, le professionnalisme, le savoir-faire qui concourt sur le terrain. Il y a aussi la guerre des choses dans l'ombre qui se joue en même temps sur le terrain, en même temps que le football.
Vous êtes en concurrence avec d'autres prêtres FA.
On est en concurrence, c'est systématique. On est en concurrence avec d'autres prêtres du FA qui vont faire des choses pour annihiler ce que vous faites. Vous aussi, vous allez devoir faire des choses pour annuler ce qu'eux, ils font. Et c'est le meilleur là qui gagne.
Mais concrètement, ça se passe comment ? Comment est-ce que l'invisible se révèle à vous ?
Ce n'est pas des chapelets divinatoires. On pose la question pour savoir l'issue favorable ou défavorable de ce qu'on veut bien entreprendre. Et avec les chapelets divinatoires, les rituels protocolaires sont faits et les chapelets sont jetés par terre. Et une fois jetés par terre, les chapelets donnent des figures. Et ce sont ces figures-là que nous interprétons.
Vous pourriez me montrer ?
Apporte-moi. Ça, c'est le chapelet divinatoire. Okay. Donc, c'est ce chapelet-là qu'on jette. Et en fonction de la position de chaque gousse, on interprète maintenant.
Et ces gousses-là, qui sont donc reliées entre elles à une ficelle, ces gousses, c'est quelle matière ?
C'est un arbre. C'est une variété d'arbre qui donne ce fruit. Et c'est, la coque du fruit qu'on prend pour pouvoir faire le chapelet. Voilà. Et l'arbre est déjà doté de l'énergie d'émission et de réception de l'invisible. Donc, naturellement, l'arbre a la possibilité d'émettre dans l'invisible et de recevoir de l'invisible.
Okay. Oui. Professeur Kofi Azah, on parle du sport. Oui. Est-ce qu'il est arrivé que vous ayez fait, par exemple, des prédictions qui sont tombées juste vraiment après une compétition ?
Eh bien, ça, c'est la monnaie courante. C'est la monnaie courante. On ne peut pas préciser exactement, vous allez marquer 2 buts, vous allez marquer 50 buts, vous allez marquer 3 buts. Non. Mais vous allez sortir votre épingle du jeu, vous allez vous en sortir.
Sur les rituels que vous préconisez, vous pourriez m'en dire un petit peu plus. Là, on a vu par exemple, en entrant avec Mirabel, on a vu une chèvre qui avait les 4 pattes attachées. Mm-hmm. Qu'est-ce qui allait lui arriver ?
Non. Rien de mauvais va lui arriver. Cette chèvre-là que vous avez vue va servir à ramener l'énergie. Elle va servir de locomotive, donc de moyen de transport, c'est tout. Et après, bon, on le relâche.
Et dans le sport, qu'est-ce que vous pouvez conseiller comme pratique, comme rituel ?
Non, ça dépend parce que chaque rituel est défini par les signes du phare qui sont apparus. Il y a eu des fois où le phare recommande de faire peut-être des rituels de fruits. Donc, peut-être prendre un panier de fruits, aller peut-être offrir à l'océan, ou alors prendre des douceurs. Quand on parle des douceurs, c'est les jus de fruits, du miel, du sucre, des biscuits, des bonbons qu'on va offrir au génie de la forêt, par exemple. Le phare peut demander peut-être de préparer des nourritures. Donc, on peut parler du riz, du haricot, du d'igname, du manioc. Et on partage ça à tout le monde et tout le monde mange et tout ça, comme le monde. C'est chaque signe qui détermine le rituel qu'il faut faire. Et on le fait.
Quelles peuvent être les dérives de ces pratiques ?
Il y a des moments où certains peuvent cibler les gros maillons de la chaîne, donc de l'équipe, s'appesantir spécialement sur l'affaiblissement de l'équipe à partir de cela. Donc, ça déstabilise toute l'équipe. Et ça peut... une fois que le travail est fait ici... Je ne le conseille pas surtout, hein, même si certains confrères ne seront pas contents de moi. Ça peut se traduire peut-être par une blessure, et cette blessure-là peut être grave sur le joueur. C'est-à-dire que pour forcément l'handicaper et déstabiliser l'adversaire, lui peut se blesser gravement, et ça peut jouer sur sa carrière, sur la suite de sa carrière. Donc, on peut observer que ces dérives-là, de temps en temps, mais bon, c'est de bonne guerre.
Mais est-ce qu'il y a aussi des mauvais prêtres ou des prêtres qui ne sont pas vraiment formés, qui proposent à peu près n'importe quoi pour s'enrichir aussi ?
c'est du charlatanisme. Il y en a partout, il y en a même dans le journalisme. Il y a des journalistes qui sont charlatans. C'est-à-dire qu'ils connaissent pas le métier, mais ils prétendent connaître le métier. Ça, c'est ça le charlatanisme. Donc, il y a beaucoup de charlatans parmi nous. Ils sont même plus nombreux que ceux qui ont réellement appris le métier. Parce que la pratique du fard est déontologique qu'il faut respecter. Ils n'ont subi aucune formation. Et surtout, l'avènement des réseaux sociaux a envenimé complètement la situation.
Allô? Oui, monsieur Komaleni, comment vous allez? Oui, monsieur Ambroise. Vous avez rendez-vous avec Raphaël au stade. On est juste en face de vous.
Il arrive sur son scooter.
Bonjour, monsieur.
Bonjour, Komaleni. Monsieur.
Bonjour, madame.
Enchanté.
Comment vous allez?
Au revoir, grâce.
D'accord.
Quelle équipe vous soutenez? Vous, aujourd'hui, en tant que supporter?
En tant que supporter?
Ouais.
Ah oui, si, Wassa, les requins de l'Atlantique.
Les requins de l'Atlantique?
Oui.
Ah, et ils sont originaires d'où?
C'est à Cotonou, ici.
Ok.
Oui.
Et ils sont forts?
Ah, pour le moment, on est faible. L'entraîneur n'est pas si fort. Donc, on a déjà limogé.
Il faut changer les Bokono aussi.
Ah, non. Pour le championnat national, il n'y a pas ça.
Alors, c'est pour quelle compétition?
Ah, mais... compétition d'Afrique.
Est-ce qu'on peut entrer dans le stade?
Ça ne me gêne pas.
Et nous voilà donc dans le stade.
Oui.
Alors vous, particulièrement, il vous est arrivé d'accompagner des équipes chez des Bokonono, prêtres Faou, pour qu'ils nous aident vraiment à affaiblir l'équipe adversaire pour que nous puissions gagner. Vous avez fait souvent partie de ces équipes-là qui vont vers?
Oui. On met tout en œuvre pour gagner. Parce qu'on aime notre patrie.
Et est-ce que vous avez, vous, en tant que supporter, une influence?
Oui, mais les joueurs me connaissent très bien. Je ne suis pas quelqu'un qui est caché.
Ils sont rassurés quand ils vous voient?
Oui, ils sont rassurés.
Pourquoi?
Ils savent. Ils savent le pourquoi.
Et racontez-moi comment ça se passe un match ici. Quelle est l'ambiance? Puisque je ne peux pas assister à un match, puisque ce n'est pas la saison.
Si tu viens au stade d'ici, si c'est à 16h, si tu viens à 14h30, tu n'auras plus la place.
C'est complet.
C'est complet.
Ils sont où les Bokono?
Non, ils ne viennent même pas.
Ah, ils ne viennent même pas?
Ils viennent derrière les gradins.
Et racontez-moi peut-être la plus belle victoire ici que vous ayez vécue.
Une belle victoire? Ouais. Il y en a beaucoup. Hein. Le match contre Ghana ici, contre Zambie, contre l'Algérie. C'est une victoire qu'on ne peut jamais oublier. Les Zambiens sont arrivés ici, vous avez vu ce qui s'est passé. Il faut qu'on gagne ce match-là pour aller à la CAN.
C'est un match de qualification?
De qualification. Et Zambie était une très bonne équipe en ce moment-là, arrivée au Bénin. Ils ont pris 3-0 rapidement. Hein.
Et ça, pour vous, c'était grâce à des rituels?
Oui,
niveau doux.
C'est grâce à des rituels.
Lesquels?
Il y a un peu du tout. Il y a Gamara, il y a Tchakatou.
Mais qu'est-ce que ça veut dire?
Ah, si on t'envoie ça, toi tu es même debout là, tu vas commencer pas à sentir en même temps. Hein.
Donc on peut me faire du mal avec ça?
Oui, on peut faire du mal.
Mais c'est quoi? C'est une poudre? C'est quoi?
On ne vient pas chez toi même pour faire ça. De loin, on va t'envoyer ça.
Ok. À distance?
À distance. C'est à distance qu'on a fait ça. Au gardien zambien ici, il lui a envoyé un Tchakatou. Rapidement, il est tombé. Et on est obligé de le faire sortir. C'est en ce moment-là qu'on ne s'est pas marqué des buts.
Attention à ce ballon perdu. La frappe. Et le but. Le but de l'Irlande. Il prend un très, très bon appui. Il utilise son coup de pied. Et il frappe de toutes ses forces. Et le gardien reste pantois. Reste. Sans pouvoir même faire le moindre geste. Bravo, bravo à cette équipe béninoise qui vient d'ouvrir le score.
On m'a parlé d'aiguilles plantées dans les poteaux des buts, par exemple.
Oui, c'est la veille qu'on fait tout ça.
La veille?
Oui.
Donc en fait, le terrain est piégé presque.
Oui, c'est ça. C'est piégé, c'est pas presque, c'est piégé. Tu ne peux pas marquer un but dans notre poteau, jamais.
Mais vous savez bien que c'est faux, puisque vous avez perdu plein de fois.
Il y a des matchs qui sont très durs. Okay. Les autres aussi se préparent. Quand toi tu fais, d'autres détruisent. J'ai au moins la facilité de rentrer sur le terrain. Le match se prépare dans la nuit.
Et qu'est-ce que vous faites dans la nuit?
Madame, il ne faut pas chercher à manger le piment dans ma bouche. Vous êtes femme. La veille du match, on ne laisse même pas les femmes rentrer sur le gazon.
Donc, j'ai pas le droit de savoir.
Tu ne peux pas. Tu ne peux pas.
C'est secret.
C'est secret.
Ok.
C'est secret spirituel.
Alors, il faut peut-être que vous m'expliquiez ce que ça veut. Qu'est-ce que ça veut dire déjà, enlever le piment de la bouche? Ça veut dire tirer les vers du nez?
Voilà, exactement, Jean. C'est pas moi qui vais te révéler tous nos secrets, c'est ce qu'il voulait dire par là.
Mais ça vous a étonné, son attitude?
Ouais, un peu. Et puis, peut-être à la fois, ils craignent que leur équipe ne soit fragilisée en donnant toutes les recettes peut-être qu'ils utilisent pour vaincre l'équipe adversaire, parce que chacun utilise et le plus fort gagne, quoi. Donc, si lui, il révèle pour lui, les autres peuvent se dire « Ah, c'est ça, ils font. » Et donc, désormais, ils se prépareront en conséquence. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il a gardé beaucoup de réserves. Mais il nous a dit quand même pas mal de choses.
Et le fait que ce monsieur dise aussi que je n'avais pas le droit d'être sur le terrain parce que j'étais une femme, ça vous a étonné?
Bon, pas trop, parce que quand je tiens compte de la tradition, les femmes ont un certain pouvoir dans la tradition. Elles ont la capacité parfois de briser les gris-gris qui sont faits. On parle de terrain miné parfois quand des dispositions ont été prises vraiment pour vaincre ou pour nuire à quelqu'un, si je peux le dire comme ça. Et donc, quand les choses sont faites comme ça, et vous, en tant que femme, vous arrivez, pas parce que vous êtes femme forcément, mais parce que peut-être vous êtes en menstrue, ça peut éliminer tout ce qui a été fait. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas permis parfois que les femmes arrivent dans des circonstances comme ça.
Stop, 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 stop. On recommence. Sortez le ballon. Quelle équipe empêche la progression de l'adversaire? Les oranges. C'est-à-dire que les jaunes ont le ballon. Et vous devez faire quoi? Les empêcher de progresser. En faisant quoi? En faisant marquage. D'accord? Empêcher maintenant les jaunes de progresser et marquer. Allez, c'est parti. Jeu!
Adolphe Ogouillon, on est ici au bord du tout nouveau stade synthétique de Misraïté.
Oui.
Vous êtes le directeur technique de la Fédération béninoise de foot. Et dans les années 90, vous avez écrit un article dans le cadre d'un colloque donné par l'Université de Nantes sur la pratique du vaudou dans le foot. Et dans cet article, en fait, vous regrettiez que les joueurs invoquent la fatalité, les rituels vaudou, plutôt que d'analyser leur défaite.
Oui.
Est-ce que ça, c'est encore le cas aujourd'hui?
Mais pour moi, c'est encore le cas. C'est-à-dire avec un regard occidental, c'est-à-dire le côté rationnel, on ne retrouve pas ce côté rationnel de l'analyse des défaites. On met ça sur le coup, disons, d'une puissance supérieure. Et ça, ça existe encore. Et là, j'ai un jeune joueur, un jeune entraîneur qui était en formation il y a 3 mois et qui va parler encore, si, qui peut nous certifier ou pas, si ses croyances, ses pratiques existent encore. Donc, il faudrait peut-être lui poser la question. Je pense qu'il a des réponses à cela.
Moi, c'est Frédéric Nkounou. Pour avoir joué beaucoup au Bénin, dans les clubs de première division Bénin, notamment les Dragons, FC de Porto Novo, vous savez.
Vous avez un dragon là sur votre veste orange.
Ah oui, c'est le club le plus mythique au Bénin. Mm-hmm. On parle de cette pratique au Bénin, je peux l'avouer que ça existe toujours. Sauf que les gens dans leur mentalité pensent que cette pratique a plus de valeur que la performance sur le terrain. Et nous, à notre temps, il y a toujours de ces pratiques où dans les vestiaires ou autres, on te propose des choses à utiliser lors du match qui te fera gagner des matchs.
Quoi par exemple?
Des produits, des prières et autres à faire avant de monter sur le terrain, autres, des choses qu'on vous donne à prendre, à attacher et autres. Nous, à des moments donnés, on était tous gamins, on croyait à ça. Sauf que le sort du match a toujours été autrement. Des fois, ça, quand je prends du recul, je dis non. Non, il va falloir que nous travaillions pour pouvoir montrer que cette pratique n'a pas d'influence, selon moi. Puisqu'on a perdu des matchs, malgré ça, on a été préparé sauvagement, mais on a perdu des matchs. On pouvait gagner ces matchs si on s'attendait plus sur le travail, sur le terrain, au lieu de penser qu'un jour, tel produit et autre pourra nous faire gagner un match.
Préparer sauvagement, qu'est-ce que ça veut dire?
Quand on dit sauvagement, c'est parce qu'il y en a tellement que ça ne vient pas d'un seul individu. Ça peut venir des groupes de supporters, ça peut venir du bureau dirigeant, ça peut venir même des joueurs et des collègues à toi qui te proposent des choses. Moi, particulièrement, je peux dire que, il est vrai, je ne refusais pas aussi ce que les dirigeants nous proposaient, puisque c'est comme si c'est toi le porte-malheur de l'équipe. Certains de mes collègues, eux, ils disent non. Ils disent non, ils ont dû quitter l'équipe. Il y a eu des moments où les joueurs voient leur contrat. Ils ont mis fin à ces contrats juste parce qu'à un moment donné, ils refusaient de s'adonner à cette pratique. J'ai un ami à moi qui a quitté le club comme ça parce qu'il a refusé pour un match aussi important. Il a refusé, c'est un gardien de but d'ailleurs, qui a refusé et puis à la fin, on le connaît, il a quitté le club.
Je peux confirmer parce que moi, j'ai été mis au banc des Dragons pour avoir commencé à refuser. À l'époque, j'étais capitaine et je sais comment ça se pratiquait, comment on était sous pression. Psychologique lorsque nous refusions et on m'a accusé de vouloir la défaite de l'équipe et que mon comportement est inadmissible et j'ai été sanctionné, c'est-à-dire exclu du groupe, de l'équipe jusqu'à nouvel ordre. Mettre devant que c'est les croyances qui font gagner, on aurait été les champions du monde depuis des années. On l'a jamais été dans aucune discipline. Et pour moi, jusqu'à aujourd'hui, rien ne m'a encore démontré l'importance des croyances dans l'acquisition des résultats, mais non plus dans les échecs.
Quelle est la situation la plus folle que vous ayez vécue, vous, lorsque vous jouiez dans l'équipe nationale du Bénin?
C'était ma deuxième sélection. On était parti jouer au Nigeria, à côté. Et dès qu'on arrive la veille, on est venu faire une reconnaissance de terrain, de pelouse. Et notre sélectionneur, au lieu de s'occuper de nous, il nous a confié à son adjoint, il a été dans chacun des deux buts. Il s'est assis en faisant face au filet. Et il s'est assis, nous on ne savait pas ce qu'il faisait, on était convaincus qu'il plantait des choses dans le but. Ok, on vient jouer le lendemain, on perd 7-0. Ben, au moment où on est monté dans le bus, quelqu'un lui dit, mais comment est-ce que le gris-gris a pu marcher alors qu'on vient de perdre 7-0? Il nous dit, ah, si ce n'est pas les petites choses qu'il a plantées dans les buts la veille, qu'on aurait dû prendre 12. Donc que c'est grâce aux petits trucs que lui a plantés qu'on a limité la casse. Alors que déjà quand tu prends 7-0, c'était déjà une grosse casse. Pour lui, 7-0, c'était une performance de perdre 7-0. Quoi. Donc vous voyez, donc c'est pour moi la situation la plus folle.
Ah, c'est l'interprétation d'un échec.
Oui, voilà, ouais, c'est
on
ça.
Peut voir l'échec de manière positive.
Ouais. De façon positive, au contraire, de couvrir ses lacunes, oui.
Vacarme.
Pour moi, il n'avait pas la carrure d'un sélectionneur. Faut dire la vérité.
Prières, offrandes et rituels, c'était un reportage de Raphaël Bouchet et Mirabel Apaki. 058 134 134 0, c'est le numéro à composer pour nous dire ce que vous pensez de ces croyances et de ces rituels. Font-elles écho à vos pratiques? Vous aussi, vous aimez confier votre vie, vos challenges ou vos résultats sportifs à des forces invisibles? Dites-le nous au 058 134 134 0.
Vacarme, Raphaël Bouchet, Laurence Di Félix, Valérie Dantan et Stéphanie Coudray.
Demain, pour le dernier reportage de cette semaine, nous rencontrerons un navigateur qui a dû faire face à des vents contraires et a mis sa carrière sur pause depuis une petite année, Nils Palmieri.
Les bateaux sont fragiles et on a vu là sur cette Transat Jacques Vabre qu'il y a eu quand même passablement d'abandon de notre catégorie. Beaucoup de bateaux qui ont dû s'arrêter, faire des escales. Enfin, là, j'ai vécu quand même des semaines et des mois pas simples. Là, je suis un peu dans le creux de la vague, dans ce plan sportif. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui fait partie de notre sport.
Nils Palmieri, La course ou la vie, un reportage à découvrir demain dès 13h dans Vacarme. Là, il est 13h30, on accoste aujourd'hui l'Arctique sous un angle géopolitique. Très bon après-midi.
Histoire vivante. Histoire vivante, Anaïs Kien.
Depuis quelques années, l'Arctique est partout. Dans les romans policiers, dans les séries, dans les rubriques de géopolitique. Parce que la fonte de la banquise inquiète, parce que les appétits commerciaux et stratégiques s'aiguisent, parce que la région est devenue un décor d'intrigues de fiction qui font un carton en librairie. Alors dans cette nouvelle série, on explore son histoire pour comprendre comment l'Arctique est devenue cette immense surface de projection de toutes les angoisses de notre temps. Épisode 4. Géopolitique de l'Arctique. Depuis des siècles, l'Arctique intrigue, repousse et impressionne. Mais depuis quelques décennies, elle est devenue un enjeu politique et stratégique majeur, au croisement des guerres commerciales et industrielles, de la décolonisation et de la protection de l'environnement. Camille Escudé est l'autrice du livre « Géopolitique de l'Arctique » paru aux Presses universitaires de France.
C'est-à-dire qu'en fait, il y a une logique de front pionnier en Arctique qu'on a pu retrouver, qu'on retrouve dans d'autres endroits du globe terrestre. Mais il est vrai que cette logique, elle est particulièrement à l'œuvre en Arctique depuis longtemps et même quelque part, elle se joue encore aujourd'hui. Par le mot de front pionnier, on entend ce terme de frontière qui a été conceptualisé par le géographe américain Turner au cours du 19e siècle pour parler de l'Ouest américain. Mais on observe exactement ce phénomène-là. Si on pense à la Russie, par exemple, c'est-à-dire il y a une histoire de front pionnier, d'exploration, de mise en valeur du territoire, de développement du territoire arctique au fur et à mesure de l'appropriation politique. Et c'est une sorte de frontière mouvante qui va finir par avancer jusqu'au moment où les limites du territoire politique coïncident avec sa mise en valeur. Et c'est véritablement ce qu'on observe, par exemple, en Russie. Alors après, il est vrai que parfois, les différentes limites de mise en valeur des différents États peuvent se rencontrer. Mais contrairement peut-être à certaines idées reçues, cela n'a pas tant été le cas en Arctique. C'est-à-dire qu'il y a eu très peu de conflits pour les frontières de l'Arctique. Et les dernières limites, les dernières frontières qui ont été réglées en Arctique, elles sont relativement récentes. Mais je pense par exemple en 2010, à une frontière sur un petit morceau dans la région de Barents, entre la Norvège et la Russie, qui a été fixée en 2010 par un accord bilatéral entre Oslo et Moscou, de façon tout à fait diplomatique. Mais c'est vrai que ces fronts pionniers qui se sont ensuite stabilisés en frontière, c'est quelque chose qui s'est déroulé au cours du 19e puis du 20e siècle, mais qui n'a pas vraiment fait l'objet de conflits. Aujourd'hui, en revanche, quand on parle de nouvelles frontières en Arctique, c'est un des expressions qu'on entend souvent, on parle peut-être davantage des frontières maritimes qui, elles, ne sont pas encore complètement fixées et ou reconnues par tous les acteurs.
Un territoire vierge de plus en plus accessible. Des ressources naturelles et stratégiques objets de toutes les convoitises. Et des Russes qui y ont planté symboliquement leur drapeau au fond de l'océan. Américains, Canadiens, Européens et Russes, entre eux a émergé un nouvel enjeu de pouvoir. La bataille de l'Arctique.
Alors, ce qu'on peut observer, effectivement, peut-être sur l'Arctique en général, c'est que ce sont des territoires qui sont presque saturés d'imaginaires géographiques et littéraires et cinématographiques et populaires. Et ça date, je pense que ça date du 19e siècle et de tout un tas de romans d'aventure de Jack London en passant par Jules Verne, etc., qui ont quelque part romanticisé ces territoires et projeté des images qu'on a tous encore aujourd'hui, je pense, dans nos esprits, c'est-à-dire des territoires du vide, des territoires du froid extrême, bien sûr, des territoires des bêtes sauvages, des territoires de l'aventure. Et effectivement, ce sont des imaginaires qui ont été déployés par la littérature, puis ensuite par les films, même par les journaux, la culture populaire, etc. Et qui permettent aussi d'ancrer une certaine vision de ces territoires qui ont ensuite été était critiquée comme peut-être portant des imaginaires aussi qui coloniaux, c'est-à-dire que l'idée d'imaginer des territoires vides, par exemple, justifie une colonisation, sachant qu'aujourd'hui, ces territoires, on sait très bien, il y a, je vous l'ai dit, 4 millions de personnes qui vivent au nord du cercle polaire et des personnes qui vivaient bien avant l'appropriation de ces territoires. Mais c'est comme si c'est quelque chose qui résonnait encore aujourd'hui, comme si c'était quelque part un peu la dernière frontière due à des contraintes, évidemment, de ces territoires qui sont propices à l'imagination, qu'on pense évidemment au froid extrême, qu'on pense à la nuit polaire, qu'on pense à l'enneigement, à l'englacement, à des territoires qui sont effectivement somptueux et quelque part peu densément peuplés, mais aussi à ces territoires qui ravivent aussi des imaginaires de guerre froide, d'affrontements. Si on prend par exemple un exemple cinématographique, je pense au film de Kubrick, Docteur Follamour, Docteur Strangelove, où dans le scénario d'attaque des États-Unis par la Russie, ça passe évidemment par l'Arctique.
La base est mise sur le pied d'alerte rouge. Vous ferez communiquer à toutes les sections immédiatement.
Alerte rouge, oui, excellente idée, ça réveillera un peu le personnel.
J'ai bien peur que ce ne soit pas un exercice, colonel.
Ce n'est pas un exercice ?
Je crois que nous sommes en pleine guerre chaude.
Et aujourd'hui, ces scénarios de conflits, d'emboîtements, d'intérêts à la fois économiques, politiques, territoriaux, dans un contexte de territoire sauvage, pur, et tout ce qu'on peut attribuer encore à ces espaces-là, on le voit. Si je pense par exemple à la dernière saison, je crois, de la série Borgen, qui fait rentrer effectivement dans la culture populaire et dans la culture des séries un enjeu géopolitique qui est effectivement majeur, qui est celui des relations entre Danemark et Groenland, entre le Danemark qui veut choyer son territoire autonome du Groenland pour garder un peu la main dessus, et la tentation de l'indépendance de la part des Groenlandais, mais à quel prix ? Peut-être celui effectivement d'une nouvelle tutelle qui serait celle des énergies fossiles, sinon celle des mines. Et c'est vrai que ces tensions-là, qui sont aujourd'hui devenues des objets de culture populaire, en plus des objets dont on peut parler dans les médias, ce sont des choses qui sont très actuelles encore. Actuellement, là, au printemps 2024, on observe des tensions entre le Danemark et le Groenland à propos de la nomination d'un ambassadeur arctique, ou encore entre le Danemark et le Groenland actuellement, parce que le Groenland voudrait un poste à part entière au Conseil nordique, qui est une des instances décisionnelles de la région. Donc effectivement, c'est un jeu un peu de miroir grossissant qu'on peut observer dans la culture populaire. Mais en fait, ce miroir grossissant, il est vraiment un écho à partir d'enjeux qui sont réels. Et les deux se répondent, je pense, et les deux se mêlent pour aboutir aussi à cette construction imaginaire qu'on a des territoires arctiques.
C'est la nouvelle lubie de Donald Trump, acquérir le Groenland, ce territoire autonome avec 56 000 habitants rattachés au Danemark.
Il s'agit d'une importante transaction immobilière. Beaucoup de choses pourraient être faites. Le Danemark en souffre parce qu'il perd près de 700 millions de dollars par année en subventionnant le Groenland. Donc pour eux, c'est à perte. Et stratégiquement, pour les États-Unis, ce serait bien.
Le 19-30, 21 août 2019.
Je pense en particulier à un épisode qui a été très marquant. C'est à l'été 2019 quand le président des États-Unis, Donald Trump, a proposé d'acheter le Groenland. Je me demande, même s'il n'a pas fait par Twitter, ou en tout cas juste après ce même été, il a fait un post sur le réseau social Twitter assez marquant, où c'était un photomontage du Groenland avec une énorme Trump Tower dorée du meilleur goût, et où il avait noté « Je promets de ne pas faire ça au Groenland ». N'empêche qu'il avait fait cette proposition dont on a pu peut-être un peu rire à l'époque, mais en fait qui était très sérieuse, qui était d'acheter ce territoire du Groenland. Et c'est vrai que là, on se demande dans quelle mesure la fiction et la réalité ne s'entremêlent pas. Mais en fait, c'était peut-être la façon de présenter les choses était peut-être un peu cavalière, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ça renvoie à quelque chose qui s'est vraiment passé par le passé, quand les États-Unis ont acheté le territoire de l'Alaska, par exemple. Et quand les États-Unis avaient proposé deux fois précédemment d'acheter encore une fois ce territoire. Et à cette occasion, observer les réactions croisées des responsables groenlandais et des responsables danois ont été assez ça a été assez frappant. En fait, c'est la première ministre danoise qui est venue à la rescousse du Groenland, qui tout de suite a réagi en disant « Non mais c'est n'importe quoi, le peuple groenlandais n'est pas à vendre, etc. » Et en fait, prendre cette place de défenseur des droits des Groenlandais, c'était effectivement pour le Danemark un moyen de garder un pied dans la porte de ce territoire, ce très grand territoire et très stratégique territoire pour le Danemark, qui lui permet aujourd'hui d'être un acteur arctique et de se projeter dans son outre-mer.
Pour le Premier ministre groenlandais, la réponse est ferme et claire. L'île n'est pas à vendre.
Les Américains peuvent échanger des ressources avec le Groenland comme n'importe quel autre pays. Ils peuvent commercer avec nous, mais notre pays n'est pas à vendre.
Au XIXe siècle, les puissances européennes ont des prétentions timides sur les territoires arctiques. On exploite les ressources et les pourtours pour alimenter le marché du luxe sur le vieux continent. Mais avec la guerre froide, l'imaginaire et les enjeux stratégiques se transforment. Les glaciers et la banquise restent le décor de fiction, mais aussi bien réel, d'une rivalité toujours actuelle.
Je pense que cette période de guerre froide, c'est une période très saillante parce qu'elle marque un intérêt global pour l'Arctique.
Camille Escudé, autrice du livre « Géopolitique de l'Arctique ».
C'est-à-dire qu'avant la guerre froide, les territoires arctiques étaient des territoires du lointain, des territoires peut-être peuplés essentiellement de populations autochtones, mais très loin des centres de décision. Et la période de guerre froide a révélé, pour les capitales, en tout cas pour les États centraux, leur importance géopolitique, et dès lors a révélé un intérêt géostratégique tout à fait nouveau pour les différents États arctiques. La période de la guerre froide, c'est notamment la période où ces différents territoires arctiques ont été appropriés politiquement et militairement, le moment où toutes les bases militaires ont vraiment fleuri au nord de la Russie, au nord des États-Unis, du Canada, au Groenland, même au nord de l'Europe. Et cette période où tout simplement l'Arctique est devenu vraiment d'une importance géopolitique majeure. Peut-être qu'il faut rappeler que c'est finalement la partie du monde où les deux blocs étaient les plus proches de part et d'autre du détroit de Bering, donc entre Alaska et l'extrémité orientale de la Russie, il n'y a que 80-90 kilomètres. Donc en fait, l'Arctique, c'est la partie du monde où les deux blocs sont le plus proches. Et c'est la partie du monde où éventuellement une menace soviétique ou états-unienne sera la plus probable pendant très longtemps. Et c'est aussi évidemment une période où il y a des essais militaires qui sont menés, où il y a des dizaines de milliers de soldats qui sont postés, où il y a des essais nucléaires qui sont faits notamment dans la mer de Barents par le pouvoir soviétique à l'époque. Donc c'est comme si le monde entier se rendait compte que ce qu'on peut parfois percevoir comme seulement une extrémité du planisphère, si on regarde un planisphère, l'Arctique n'existe pas vraiment. C'est juste des petits territoires au nord du cercle polaire. Mais si on regarde en projection polaire, si on regarde la guerre froide de par une projection polaire centrée sur le pôle nord, effectivement, là, peut-être qu'on prend toute conscience de cette importance géopolitique majeure des territoires arctiques, à cette époque-là, particulièrement de la guerre froide.
Histoire vivante.
Vous vous souvenez, dans le premier épisode de cette série, on suivait Léonie Donnet dans son voyage au Svalbard au début du 19e siècle. C'était déjà un site attractif et ça n'a pas changé depuis son périple.
Alors, en fait, le Svalbard, c'est un territoire, un archipel au nord de la Norvège. Et cet archipel, il a un statut qui est très particulier, c'est-à-dire que c'est un territoire norvégien, un territoire autonome, mais qui a été démilitarisé et qui a fait l'objet d'un accord qui s'appelle l'accord de Paris en 1917 et qui lui accorde une juridiction un peu particulière, c'est-à-dire que la Norvège, par cet accord, autorise différents États à y installer des bases scientifiques. Donc, au Svalbard, il y a la présence assez marquée de différents États, dont par exemple la Russie. Donc, par ce traité du Svalbard qui date de 1920, la souveraineté existe, la zone est démilitarisée, mais d'autres nations peuvent y exploiter des ressources et fonder des bases scientifiques.
Et cette forme de présence interétatique, elle survit à la Deuxième Guerre mondiale, à la guerre froide et à la chute de l'Union soviétique.
Oui, absolument. Ce traité du Svalbard, il est aujourd'hui encore en usage. Aujourd'hui encore, l'immense majorité de la population du Svalbard est liée aux différentes bases scientifiques. Beaucoup d'étudiants, beaucoup d'enseignants, des annexes de différentes universités, une université en tant que telle, l'université du Svalbard. Mais par contre, les exploitations, notamment russes, qui exploitaient des minerais, en particulier du charbon, sont tombées en désuétude. Et en revanche, on observe un tourisme qui est de plus en plus prégnant, qui prend de plus en plus de place, à la fois économiquement, mais aussi de manière environnementale pour ce territoire du Svalbard. Mais ce traité est encore en usage, malgré les différentes tensions qui peuvent éventuellement subsister aujourd'hui. Il y a toujours une base scientifique chinoise, une base scientifique française, notamment russe, etc.
Ici, au Svalbard, un village du bout du monde réunit des scientifiques de tout pays. Bienvenue à Nialesund, l'avant-poste international de la recherche climatique.
Il y a cette cohabitation internationale au Svalbard, mais il y a aussi le Conseil de l'Arctique, dont on entend souvent parler aux infos. Parce que c'est aussi un bon baromètre des relations diplomatiques fracturées depuis le début de l'offensive russe en Ukraine.
Le Conseil de l'Arctique a été créé en 1996 par une déclaration qui s'appelle la Déclaration d'Ottawa et signée par les 8 États arctiques, c'est-à-dire les 8 États souverains qui ont des territoires au nord du cercle polaire.
Le Canada, le Danemark, les États-Unis, la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Suède, la Russie.
Mais l'idée de fonder un organe de coopération autour des questions environnementales et de développement durable est un peu plus ancien. Il date en fait de la fin des années 80 et notamment du discours du dirigeant soviétique Mikhail Gorbatchev à Mourmansk en 1987. Et Gorbatchev, à cette occasion, prononce un discours où il appelle à la paix en Arctique, à la dénucléarisation, à la démilitarisation, à la coopération notamment autour de l'exploitation des ressources, autour du développement des routes maritimes. Et de ce discours qui date de 1987 découle un certain nombre d'initiatives de coopération qui sont à géométrie variable, plus ou moins contraignantes, avec différents acteurs, mais qui aboutissent à plusieurs résultats, plusieurs forums, organes régionaux, conseils, etc. Mais le plus abouti, effectivement, est ce Conseil de l'Arctique qui concentre son mandat autour de la protection de l'environnement et du développement durable. Et est ajouté une petite astérisque assez remarquable, puisque cet astérisque dit, explicite, que toutes les questions de sécurité et les questions de pêche sont expressément exclues de son mandat. Donc, quelque part, la condition pour que ce conseil existe, c'est de se réunir autour du plus petit dénominateur commun à la fin de la guerre froide entre URSS, puis Russie, États-Unis, Norvège, etc. Et ce plus petit dénominateur commun, la question qui ne fâche pas trop et la question qui semble rassembler tout le monde autour de la table, c'est la protection de l'environnement et le développement durable. Et à partir de là, l'autre condition, effectivement, c'est que ce conseil soit non contraignant. C'est-à-dire, il n'y a pas force de loi, il n'a pas force d'imposer des décisions aux différents acteurs. C'est un travail qui est essentiellement fondé sur des rapports scientifiques rédigés par les scientifiques des 8 États de l'Arctique, rédigés par des scientifiques des États observateurs, dont la France et la Suisse font partie, rédigés aussi par des populations autochtones. Et ensuite, le Conseil émet des recommandations que les différents États peuvent décider ou non de mettre en œuvre.
C'est un club plutôt restreint, mais certains de ses acteurs ont du poids. Sur le sol islandais, l'Américain Anthony Blinken côtoiera dès ce soir le Russe Sergueï Lavrov aux côtés de leurs homologues scandinaves et canadiens, tous membres permanents du Conseil de l'Arctique.
Il est clair pour tout le monde depuis longtemps que ce sont nos terres, notre territoire, et nous sommes responsables de la sécurité de notre côte arctique. Tout ce que notre pays fait est absolument légitime.
Nous avons des inquiétudes quant à l'augmentation de certaines activités militaires en Arctique qui peuvent mener à la hausse des risques d'accidents ou à de mauvaises interprétations. Et cela sape nos objectifs communs pour un avenir pacifique et durable de la région.
Une région qui aiguise les appétits, conséquences, la coopération souhaitée fait place à la confrontation et à l'étalage de force. Que ce soit sur ou sous la glace, les manœuvres militaires se multiplient.
Jusqu'ici, dans cette série, on a beaucoup parlé de rivalité coloniale et de guerre politique, de Deuxième Guerre mondiale et de guerre froide. Mais l'Arctique, c'est aussi le théâtre des opérations d'une cohabitation parfois terrible autour du droit de pêcher la baleine, et pas seulement, dans ses eaux glaciales.
Effectivement, la pêche, c'est un enjeu majeur en Arctique.
Camille Escudé.
Si on pense, il y a plusieurs nations arctiques qui dépendent vraiment des ressources halieutiques. Je pense par exemple au Groenland, je pense par exemple à la Norvège, pour qui ce sont vraiment des ressources fondamentales. Aujourd'hui, je pense que cette histoire de guerre de pêche est relativement passée au second plan par rapport à d'autres ressources qui prennent peut-être plus d'importance. Et aujourd'hui, ce qu'on observe plutôt, c'est la mise en place d'un certain nombre de cadres contraignants. J'ai parlé du code polaire et il est aussi également du moratoire sur la pêche qui interdisent la pêche dans l'océan Arctique central, mais évidemment pas du tout dans les zones exclusives. Mais c'est vrai qu'on va de plus en plus vers une réglementation de la pêche. En revanche, ce qui prend aussi plus de place, c'est l'élevage. Et je pense par exemple au cas de la Norvège avec les élevages de saumon qui, eux, se font dans les eaux évidemment territoriales norvégiennes, mais qui posent effectivement d'autres problèmes de protection de l'environnement. Mais il est vrai que la présence de l'Espagne, comme d'autres nations européennes ou même d'autres nations asiatiques, qu'on pense à la Chine, à l'Inde, à la Corée du Sud, etc., à Singapour, toutes ces nations asiatiques-là sont rentrées au Conseil de l'Arctique comme membres observateurs lors de l'année 2013. Et en conséquence, aujourd'hui, c'est plus de la moitié de la population mondiale qui est représentée soit comme membre permanent, soit comme membre observateur au Conseil de l'Arctique. Et qu'on parle de la pêche ou de la protection de l'environnement ou des autres enjeux politiques, géopolitiques, ça illustre aussi l'importance devenue mondiale des enjeux arctiques et surtout l'intérêt mondial des nations du monde. Aujourd'hui, il y a même une candidature au poste d'observateur de l'Argentine, par exemple, ou d'autres États d'Asie centrale, qui illustrent que, quels que soient les enjeux, il y a une mondialisation de l'intérêt pour cette région et aussi peut-être une volonté de ne pas être oublié des décisions qui sont prises au sein du Conseil de l'Arctique et dans les instances régionales arctiques.
Il y a une curiosité dans le Conseil de l'Arctique. La Suisse, sans accès aux océans et très loin du pôle Nord, en fait partie. Elle est membre observateur depuis 2017. Ça veut dire qu'elle fait partie des groupes de discussion sans avoir voix au chapitre dans les prises de décision.
Alors la Suisse, c'est vrai que c'est un État qui est relativement récemment rentré au Conseil de l'Arctique. Après avoir été, il me semble que la Suisse a déjà postulé en 2015 et n'a pas vu sa proposition aboutir. Et ensuite, c'est en 2017 que la Suisse, cette année-là, était le seul État à rentrer au Conseil de l'Arctique. Et dans son dossier, il me semble que c'était essentiellement pour des raisons scientifiques liées à son expertise scientifique, aux moyens déployés par la Suisse dans le domaine de la recherche, et notamment dans toutes les questions d'expertise qui portent sur les questions de glaciers liées évidemment à sa géographie, qui en font un État qui a développé une véritable expertise dans l'observation, l'analyse, toutes les questions de monitoring des glaciers.
Jamais loin de l'histoire géopolitique, il y a l'OTAN. Cette alliance militaire de l'Atlantique, largement dominée par les États-Unis. Un héritage persistant de la guerre froide.
Oui, ça me semble effectivement important de préciser qu'aujourd'hui, l'OTAN est en Arctique, tout simplement parce que plusieurs pays de l'OTAN sont en Arctique. Et surtout que suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022... Ce qui s'est passé, c'est que plusieurs pays arctiques ont demandé leur rattachement à l'OTAN, qu'il s'agisse de la Finlande, par exemple. On a beaucoup parlé de la Finlande, et donc la Finlande a demandé son adhésion à l'OTAN. La Finlande a remilitarisé sa frontière avec la Russie. La Finlande a fait construire un mur de plusieurs centaines de mètres avec sa frontière avec la Russie. Et de toute façon, même avant, d'autres pays de l'OTAN comme la Norvège accueillaient des entraînements de l'OTAN en milieu froid. Je pense par exemple à l'exercice qui s'appelle Cold Response, qui participe à l'entraînement d'environ 30 000 soldats de l'OTAN et qui a lieu régulièrement en Norvège. Donc, effectivement, l'OTAN est présent en Arctique par ses États membres qui sont de plus en plus nombreux en Arctique. Et l'OTAN est aussi présent par un certain nombre d'entraînements militaires dans ces zones polaires et qui prépare éventuellement un conflit comme d'ailleurs partout ailleurs sur la planète.
Depuis le début de la guerre en Ukraine, on a beaucoup entendu parler de la Finlande qui a demandé son adhésion à l'OTAN. Une rupture dans ses relations avec la Russie qui a exprimé son indignation féroce. Ce qui n'a pas empêché la Finlande de devenir le 31e membre de l'OTAN en 2023. Une fragilité supplémentaire dans l'entente entre les pays de l'Arctique.
Oui, c'est vrai. En fait, quelque part, il y avait une sorte de d'accord tacite entre la Finlande et la Russie qui était que jamais la Finlande n'entrerait dans l'OTAN et que la Finlande ferait effectivement office d'État tampon, alors même que les relations entre la Finlande et la Russie étaient très étroites. De toute façon, si on regarde à plus grande échelle, c'est-à-dire si on zoome, la région de Barents, qui est cette région frontalière entre Norvège, Finlande, Russie, était, c'est moins le cas évidemment aujourd'hui, voire presque plus le cas, mais était une région d'échanges très intenses entre les différents pays. C'est-à-dire que la coopération universitaire, par exemple, était très forte. Il y avait des visas spéciaux qui permettaient de part et d'autre des frontières de cette région de Barents aux Russes, aux Finlandais, aux Norvégiens, de se déplacer il y avait des visas spéciaux qui leur permettaient de se déplacer très facilement. Il y avait des travailleurs frontaliers. Il y avait des médias communs, il y avait des habitants qui se déplaçaient pour faire leurs courses d'un côté ou l'autre de la frontière. Donc, si on regarde à grande échelle, alors même qu'à l'échelle régionale de l'Arctique, beaucoup de personnes étaient alarmistes, il semblait que cette idée de coopération entre les différents États de l'Arctique, Norvège, Russie et Finlande, se passait de manière assez apaisée en raison justement de cet accord tacite qui était que jamais la Finlande n'entrerait dans l'OTAN. Ce qui s'est passé effectivement il y a plus de 2 ans, en février 2022, a bouleversé la donne. Et aujourd'hui, même très récemment, depuis le mois d'avril 2024, la frontière entre Finlande et Russie est fermée hermétiquement, et ce jusqu'à nouvel ordre. Et il y a même des accusations, donc la Finlande a fait les démarches pour entrer dans l'OTAN, et il y a des accusations de déstabilisation de la part des Finlandais qui accusent par exemple la Russie de faire passer des migrants de manière illégale pour essayer de les déstabiliser, etc. Donc cette frontière qui était ouverte pendant très longtemps et de manière assez étonnante, cette sorte d'exception arctique, aujourd'hui, elle se retrouve absolument bouleversée, et c'est aujourd'hui une frontière fermée qui se referme et qui se remilitarise.
Et qui va peser, bien sûr, sur les relations internationales au sein de cette zone arctique.
Oui, bien sûr. C'est-à-dire que, pour moi, les équilibres en Arctique sont vraiment bouleversés par cette entrée de la Suède et de la Finlande dans l'OTAN. Aujourd'hui, de fait, ces 7 États arctiques constituent un bloc et que la Russie se trouve isolée et qu'elle, de son côté, mise au pied du mur face à cette situation, ou qu'elle l'ait voulu ou non, se retrouve à aller chercher d'autres alliances, cette fois-ci parmi des pays asiatiques comme la Chine, par exemple. Et donc, il semble effectivement que ce Conseil de l'Arctique, qui existe toujours, se retrouve contourné, peut-être dépassé vers d'autres formes de coopération politique. Et de fait, aujourd'hui, le dialogue entre la Russie et les autres États arctiques ne se fait plus vraiment au Conseil de l'Arctique, voire ne se fait plus du tout.
Dans le prochain épisode, l'Arctique dans les yeux des Inuits. Histoire vivante, c'est Anaïs Quin avec Daniel Zacker à la préparation et Rodolphe Beauchot à la réalisation. La suite de cette série, c'est demain à 13h30 ou tout de suite sur l'application Play RTS.
La gestion du pôle est cruciale et pas seulement pour les pays membres du Conseil de l'Arctique. Il est le régulateur thermique de notre planète ainsi qu'une réserve d'eau douce. L'avenir climatique de l'humanité.
Histoire vivante.
Thank you.
Dans un instant, c'est Lucas Torrent et dit pourquoi. Mais d'abord les infos, il est 14h sur la première.